Musique juive d'hier et d'aujourd'hui. Une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïk FM.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission radiophonique de l'Institut européen des musiques juives. Ce soir encore, nous allons tâcher de vous faire découvrir un des multiples aspects du patrimoine musical juif, patrimoine particulièrement riche, comme vous le savez, depuis le temps que nous nous côtoyons. Ainsi, après la série d'émissions que nous avions consacrées aux mères juifs, série immémorable, nous allons maintenant aborder le rapport entre deux éléments très importants chez les juifs, la musique et la cuisine. Même si le sujet peut paraître pittoresque, il est beaucoup plus profond qu'on ne le croit. Savez-vous, par exemple, quelles sont les pages les plus fréquentées des sites internet de nombreuses associations juives, celles qui parlent justement de musique et de cuisine? Nous allons donc consacrer carrément une série de trois émissions à ce sujet ô combien sérieux. En effet, les plats typiques que nous mangeons sont évoqués dans de nombreux chants, et souvent nous mangeons en chantant, qu'il s'agisse de prières ou de chansons. Musique et cuisine ont donc des liens profonds dans la tradition juive, et ce sont ces liens que nous allons découvrir ensemble ce soir avec notre invité, Jacques Arnold, qui nous a déjà fait l'honneur de participer à plusieurs reprises à cette émission. Jacques Arnold, bonsoir.
Oui, bonsoir Hervé.
Alors Jacques Arnold, pour vous présenter, mais je ne sais pas si on vous doit vous présenter encore tellement nos auditeurs vous connaissent, vous étiez officiant à la synagogue de la Fondation Rothschild dans le 12e arrondissement de Paris. Et à ce titre, bien sûr, vous êtes un fin connaisseur de la liturgie. Et je suspecte que vous êtes également un fin gourmet. Alors, que mange-t-on chez vous le vendredi soir pour le Shabbat?
Oui, question bien particulière, mais je dirais, c'est très varié. Il n'y a pas de plat qui soit vraiment décidé, qui soit immuable de semaine en semaine. On varie. Mon épouse est une excellente préparatrice de repas et de mets très, très bons. Et donc, on peut avoir une semaine des pommes sautées au four avec un rôti de veau. Et puis, une autre semaine, on peut avoir même en plein hiver une choucroute. Pourquoi pas la veille de Shabbat. Nous ne sommes pas des accrochés à des recettes et à des menus immuables. Beaucoup de variétés, comme dans la musique d'ailleurs, il faut varier, il faut
donc
être éclectique.
Donc vous ne souffrez pas d'une phobie du repas du Shabbat qui serait toujours le même?
Non, ça, chez nous, ça, c'est très changeant, c'est très varié. Il n'y a pas comme on dit, on entend souvent des annonces qui disent « vous prenez votre Shabbat », ça veut dire « vous prenez le repas qui est cadré, qui est toujours selon la même composition ». Non, c'est varié, ça change.
Eh ben, écoutez,
et je remercie mon épouse de cette variété qu'elle s'est insufflée dans nos repas familiaux.
Eh bien écoutez, vous avez une femme formidable parce que ce n'est pas le cas de la chanteuse Astrid Rouff, dont la mère est peut-être plus caricaturale que votre femme, puisque comme on va l'entendre dans sa chanson du couscous du vendredi soir, vous verrez que le repas de Shabbat chanté par la strasbourgeoise et ashkénaze Astrid Rouff est plutôt typique.
Côté de mon père est venue de Lituanie. Toute la famille côté de ma mère, elle est venue de Varsovie. Alors dites-moi pourquoi, comment, par quelle erreur de notre histoire nous mangeons invariablement du couscous le vendredi soir. Le couscous du vendredi soir, boulette harissa. Le couscous du vendredi soir, oh mon Dieu, pourquoi? Quand on a vu des ashkenazes, des amerlocs ou des bousbous, des chinois, des gens du Caucase, ils trouvent tout ce que c'est délicieux. Wirklich toll so exotisch. Ils vont manger, ils vont boire, tous ensemble comme un Stammtisch. Le couscous du vendredi soir. Le couscous. du vendredi soir au monde de gloire. Quand on a vu des séfarades, des pieds noirs ou des marocains, ils trouvent notre couscous un peu fade, sans les merguez et sans raisin. Ce serait plutôt du pot-au-feu, mais ils le mangent sans faire d'histoire, même s'il n'est pas comme chez eux. Le couscous du vendredi soir, moulé de risotto. Le couscous du vendredi soir, au nom du bourgeois. Maman a eu l'idée de changer, elle a fait de la cuisine yiddish, du œil et fait des knédeler, gehatelev, des filtofiches. Mais les traditions, c'est sacré. Et maman a dû s'incliner. C'est une mitzvah, c'est un devoir. Le couscous du vendredi soir.
Le couscous du vendredi soir. Une pochade, une chanson amusante, comme oui, vous l'aurez compris.
Savoureuse,
de... oui. De Astrid Rouff dans son CD Ivresse, qui porte bien son nom. Voilà. Oui, savoureuse, comme vous pouvez le constater. Jacques Arnold, dites-moi, pourquoi existe-t-il un rapport aussi intense entre les plats, la table juive et la musique ? Pourquoi tant de chansons qui parlent de nourriture et pourquoi dans la nourriture parle-t-on ou plutôt chante-t-on autant ?
Bien, je crois que déjà dans le langage en général, on a une grande association, ne serait-ce que dans les termes, concernant la musique et la cuisine. Le chef dans son restaurant est derrière le piano, la musique, enfin la cuisine c'est une symphonie, il y a des couleurs, il y a de l'intensité, on peut savourer un morceau, on peut savourer un morceau d'un plat où on peut savourer un morceau de musique. Il y a l'harmonie, il y a tous ces termes-là. Et le chef, c'est le chef d'orchestre. Donc déjà, dans le langage courant, la musique et la cuisine font bon ménage, on peut le dire, avec le couscous en même temps, d'ailleurs. Ça s'acclimate très bien. Dans le terme, dans les termes hébraïques, peut-être on va plutôt là s'y consacrer un peu, l'élément essentiel de la nourriture, c'est le goût, c'est le ta'am. Et on trouve dans la tradition juive la base de toute la mélodie, de toute la mélopée traditionnelle, c'est le ta'am, c'est également le...
C'est le même mot, en fait, voilà, qui désigne à la fois, c'est ça qui est incroyable, ça désigne ces accents bibliques qui permettent, en fait, de cantiler la Bible, la Torah, et en même temps, c'est le goût, le
c'est
goût
le goût du texte, il donne du goût au texte, sinon on aurait une récitation plate et insipide, j'emploie exprès des mots qui nous rappellent tout ce qui est gustatif, donc déjà le ta'am, c'est la base même du chant hébreu, du chant de la prière et des textes de toute la Bible. Et même dans l'étude, d'ailleurs, il y a des intonations. Quand vous entendez dans une yeshiva, quand vous entendez des gens étudier, il y a une intonation. Il y a, dans la discussion talmudique, on a l'impression que c'est bien. Mais si, c'est pas bien, etc. Il y a toujours une intonation qui vient se greffer sur le texte.
Et même, je me rappelle avoir entendu dans les yeshivot, enfin, les enfants, ils apprennent en chantant, en fait, hein. Ils apprennent les textes, la prière.
Et d'ailleurs, tous s'intègrent mieux en ayant une certaine musicalité. Voilà ce qui fait qu'il y a un bon lien entre les deux, entre tradition et...
Et alors, dans la Bible ou dans la loi orale, est-ce qu'on trouve mention de cette nourriture
Eh bien, la Bible, dès son premier chapitre, quand il y a la création du monde, le premier souci, c'est de savoir qu'est-ce que vont manger toutes ces créatures. Et il y aura ceux qui se nourrissent de végétaux. Ce ne sera qu'après le déluge, après la sortie de l'arche de Noé, que la nourriture comprendra de la viande. Jusqu'à Noé, il n'y a pas de viande. Ce ne sera que dans la période post-diluvienne que la viande va entrer dans la nourriture. Jusqu'à tant qu'on était dans la création du monde, ce n'était qu'un monde végétarien. C'est ce que dit le texte clairement dans la Bible. Et puis il y a un grand nombre d'épisodes bibliques qui nous rappellent, ne serait-ce que le jardin d'Éden, Abraham qui reçoit ses visiteurs, l'hospitalité qui va avec, qui contraste avec la civilisation de Sodome. Il y a dans toute la sortie d'Égypte, la période des 40 années du désert qui couvre toute la Torah, eh bien, il y a les problèmes de nourriture, de la manne jusqu'à la caille, et les problèmes de toutes sortes qui concernent la nourriture des Hébreux. Et puis après, la terre d'Israël qui va être le lieu dans lequel on pourra s'épanouir avec le pays qui coule le lait et le miel. C'est une bonne transition.
Eh bien, écoutez, puisque c'est une bonne transition, nous allons donc écouter cette chanson israélienne très connue, Eretz Zavat Halav, le pays du lait et du miel, extrait justement d'un des versets de la Bible.
Eretz Zavat Halav, Halav Devash, 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 Eretz Zavat Halav, Zavat Halav Devash, Eretz Zavat Halav, Zavat Eretz Zavat Halav, Halav Devash, 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 Eretz Zavat Halav, Zavat Halav Udevash, Eretz Zavat Halav, Zavat Halav Udevash.
Un extrait de la célèbre chanson israélienne Eretz Zavat Halav, chantée par la grande, grande artiste Yaffa Yarkoni. Ça, c'était presque une chanson des pionniers. Donc, cette chanson qui célèbre le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Jacques Arnold, où trouve-t-on encore mention de nourriture dans la Bible ou dans les écrits bibliques?
Oui, donc on évoquait évidemment toute la place qui est accordée à ce qui concerne la nourriture dans la Bible, dans la Torah. Et évidemment, dans d'autres textes, on retrouve le souci de nourriture, de consommer, etc. Cela revient, on l'évoquera un petit peu plus tard. Dans la loi orale, il y a de nombreux textes qui sont liés à la nourriture, pour la simple raison qui est celle des lois alimentaires. On doit parler également de la shrita, c'est-à-dire de ce qui concerne l'abattage rituel. Je voudrais simplement résumer les choses et me pencher très rapidement, faire en sorte que l'on se penche rapidement sur un enseignement dans les traités des pères, dans les Pirkei Avot, l'enseignement de Rabbi Shimon qui nous dit que Shlosha Shearlu, trois personnes qui ont mangé au cours d'un même repas, qui se trouvent réunies au cours d'un même repas et qui n'auraient pas prononcé au cours de ce repas des paroles de Torah, c'est-à-dire des enseignements, des choses qui ont une certaine élévation, qui donnent une certaine élévation au repas, eh bien c'est comme s'ils avaient mangé des offrandes mortifères, des offrandes destinées à l'idolâtrie, des offrandes détestables. Et là, on voit qu'il y a un lien, pour être dans le vif de notre sujet, on voit qu'il y a un lien très fort entre ce qui est la table, ce qui est terrestre, nourriture terrestre, comme on dit, et le fait de vouloir faire et accomplir en même temps une élévation et tendre vers ce qui est divin, vers ce qui est plus élevé. Et dans la nourriture, c'est ce que l'on recherche et c'est ce que va nous permettre de faire la musique, les négonim dont on va parler dans un instant, les émiraudes. C'est cela qui va nous permettre de sortir de simples repas comme l'ont fait les juifs.
Vous voulez dire en fait que la musique est un médium qui permet en fait de cette nourriture terrestre de s'élever vers le ciel, vers le divin.
Oui, on va grâce au chant, déjà dans cet enseignement des Pirkei Avot, c'est le fait de parler d'autres choses que de simplement des choses profanes à table. On essaye de sortir de ce genre d'ambiance qui régnerait à table et pensons à nos repas. On ne doit pas faire d'un repas un moment où l'on aurait des dialogues ou des discussions qui soient de très bas niveau. On essaie au contraire, par cette demande que nous enseigne Rabbi Shimon, de faire en sorte que le repas soit d'un autre niveau. Et dans la plupart des cas, et surtout pour les fêtes et le Shabbat dont on parlera tout à l'heure, eh bien, il s'agira d'entonner des chants qui vont nous permettre de manger, de se comporter différemment que cela était le cas pour les juifs, pour les judéens qui étaient à Suse, on l'a lu il y a quelques semaines dans la Megillah, qui avaient participé au festin d'Assuérus et qui s'étaient vraiment dévoyés en ne se comportant pas comme ils se devaient. Et c'est cette espèce de souci de ne pas tomber dans une simple action matérielle que l'on va essayer d'adopter. C'est ça qui va être le point fort de la tradition juive, de faire en sorte que manger ne signifie pas pour autant se trouver à un niveau, on va dire, très très bas, animal en quelque sorte.
Donc dans la tradition juive, en fait, il y a donc des mets qui sont spécifiques à chaque fête, enfin souvent, pas forcément, mais évidemment on pense à Pessah avec les matzot, le pain azim, on pense à Pourim, à Rosh Hashanah avec justement tout ce qui est lié au sucré, au miel, enfin pour que l'année soit douce, à Pourim, ce sont les oreilles d'Aman, ces fameux gâteaux, et puis bien sûr Hanouka avec les beignets dont raffolent les enfants, donc et tout ça, je crois, a donné lieu à des chansons aussi.
Hein. Absolument, voilà, toutes ces circonstances que sont les fêtes vont se trouver associées avec des choses qui sont de l'ordre de la nourriture pour justement faire en sorte qu'on trouve dans la nourriture une spiritualité et dans la spiritualité aussi on l'accompagne de choses matérielles. Les deux contribuent l'un l'autre un meilleur accomplissement.
Alors justement, on va rentrer dans l'ambiance de ces fêtes et en même temps dans le goût, dans le tam de ces aliments, en écoutant donc une compilation des beignets de Hanouka et bien sûr des oreilles d'Aman que l'on mange à Pourim, chantées ici par des enfants israéliens.
Oh,
un enchaînement de deux chansons enfantines. Les vivotes, ce sont les fameux soudganiotes de Hanouka, les beignets. On avait la recette qui nous était donnée directement en hébreu pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu. Et la fête de Pourim avec bien sûr l'évocation des oreilles d'Aman, Osne Aman. Jacques Arnold, d'où vient cette tradition de chanter pendant les repas? Parce que c'est quand même une coutume, à ma connaissance, assez unique parmi les grandes religions de ce monde, non?
Oui, je crois, en ayant réfléchi à cette question avant de préparer l'émission, en effet, nous sommes à l'approche de Pessah et le céder de Pessah est un exemple vraiment très fort de cela. C'est que au milieu d'un cérémonial somme toute religieux qui évoque la sortie d'Égypte, eh bien, il y a un repas, le shulchan orer, la table dressée. Il y a aussi, en diverses circonstances, mariage, brit mila, rachat du premier-né, on fait une soudat mitzvah, c'est-à-dire il y a un repas qui en lui-même constitue un précepte, une ordonnance pour que l'on accomplisse ce repas et ce geste religieux, cette cérémonie, avec la nourriture. Et dans toutes ces circonstances, dans le seder, à la fin surtout, mais même au milieu, on chante, il y a le hallel, il y a la louange, il y a tout cela qui se rattache et qui fait en quelque sorte un ensemble cohérent entre chanter et en même temps manger, puisqu'on mange à la fois les symboles et à la fois le repas pour calmer sa faim, puisque c'est comme cela que cette soirée se passe. Et dans ce contexte, dans cette perspective, on a, puisque le repas et la table rappellent l'autel du temple et les sacrifices qui étaient offerts, qui comportaient du végétal, des produits d'origine animale et puis même minérale, comme le sel qui est toujours sur la table, il y a les bénédictions qui précèdent et qui font qui se trouvent à la fin du repas. Elles sont, en général, sont chantées.
Alors attendez, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'en fait, quand on est à table et qu'on chante, on est un petit peu quelque part en train de commémorer ou de rappeler ce qui se passait autour de l'autel du temple de Jérusalem, puisqu'on chantait également les psaumes, enfin il y avait
oui, bien sûr, les Lévites étaient là pour donner la dimension du chant des instruments de musique. Ils avaient toutes sortes, comme le dit le psaume 150, hein, louer Dieu avec la harpe, avec le tambourin, avec les trompettes, etc. Donc, tout le culte du temple et les sacrifices étaient ponctués par des chants et par de la musique. Et puis, dans notre célébration du repas, nous avons les bénédictions qui précèdent. Bien sûr qu'on peut les réciter rapidement. On peut réciter rapidement son Birkat Hamazon, mais on verra que il mérite souvent d'avoir la dimension du chanter, d'ailleurs d'être chanté pour les enfants, pour mieux les prononcer, mieux les adresser à Dieu.
Alors écoutez, puisque vous parlez des bénédictions qui commencent le repas, il y en a effectivement plusieurs, mais d'abord celle où on se lave les mains, la bénédiction des mains, et évidemment tout de suite après, celle du pain. Et nous allons entendre, dans un quatrième exemple, ces deux bénédictions donc chantées par le rabbin Schwartz lors du soir de Pessah par les enfants. Il s'agissait donc des deux premières bénédictions qui sont ici chantées par des enfants. C'est le rabbin Schwartz qui a enregistré ses enfants, enfin plutôt dans un disque consacré à Pessah. Alors, la table quand même, qui reste la table, qui revient chaque semaine, on en a parlé au début de cette émission et qui est une référence, j'allais dire, dans les familles juives, c'est quand même la table du Shabbat. C'est là où on se retrouve tous et autour d'une table en général bien garnie et c'est là également où on chante ensemble. Et que chante-t-on exactement donc autour de cette table du Shabbat?
Alors ce sont en effet les émirotes, ce sont ce que l'on peut appeler aussi les piyutim. Dans toutes les traditions, on a cette habitude, cette coutume qui est très implantée et qui est vraiment l'apanage du peuple d'Israël et puis des communautés juives. Je réfléchissais là aussi sur ce point. Si l'on observe les autres civilisations, on n'a jamais vraiment des soirées ou des repas qui soient accompagnés de chants. Si on regarde tout ce qui est en littérature ou même dans les films, on ne voit jamais un repas qui soit vraiment chanté. On peut avoir, oui, des chants à boire, des chants parfois sans rapport avec vraiment le repas, mais en ce qui nous concerne, nous avons cette tradition pour le Shabbat et les jours de fête, surtout de mener au cours du repas toutes sortes de chants, toutes sortes de piyoutim.
Alors les piyoutim, on peut rappeler à nos auditeurs que ce sont des poésies religieuses chantées.
Absolument, comme celles qui se trouvent d'ailleurs dans le rituel. C'est pour ça qu'on a plutôt tendance à les dénommer comme zémirot, zémer, ça veut dire chanter, zamir, c'est le rossignol. Donc c'est vraiment le chant par excellence. Cet usage a pour origine un midrash sur Shir HaShirim, à propos du verset Berach Lecha Dodi, où le Midrash nous dit que Dieu, en quelque sorte, veut éviter de se trouver dans des endroits où l'on mangerait pour manger, où l'on mangerait uniquement dans un esprit et dans une ambiance qui soit uniquement destinée à calmer sa faim. Il préfère se retrouver au sein du peuple d'Israël qui entonne des chants dans ces occasions de fête et dans toutes ces célébrations. Voilà l'origine des Zémirot, pour éviter que la table, comme on le disait il y a un instant, ne devienne un lieu où on s'adonne à simplement des considérations, des dialogues, des discussions qui ne soient pas dans le bon esprit, dans la bonne ambiance de la fête du Shabbat.
Et combien y a-t-il de Zmirot, en fait? Est-ce que c'est le même nom pour chaque communauté, selon la tradition?
Pratiquement, j'observais encore les textes à ce propos. On a un ensemble d'une vingtaine de Zmirot qui se trouvent dans des recueils modernes, on les trouve. Elles sont à peu près au nombre de 20. Bien sûr que l'on peut à cela ajouter toutes sortes de textes, toutes sortes de citations, de versets. Je pense notamment à Yismach Moshe Bematenat Relko de Johamar, que l'on n'a pas mis à notre programme, mais c'est un verset biblique qui sert à illustrer le Shabbat. Mais il y a, on peut dire, une base de Zmirot que l'on connaît bien, c'est Ki Eshmera Shabbat, Ma Yedidot Menuchater, Menucha Vesimcha. On les connaît, elles sont dans les bons livres de prière, et c'est ce qui constitue le socle de l'ensemble des traditions. On peut dire les auteurs qui sont Israël Nagara du XVIIe siècle, qui sont Dounash même du Moyen-Âge, Judah Alevi, Ibn Gabirol, ouais. Tous les grands auteurs de textes piyutim, de textes poétiques, se retrouvent dans ces recueils. Il y en a qui sont anonymes aussi, qu'on a simplement conservés. Voilà à peu près la base sur laquelle l'on a l'habitude, le Shabbat, de faire retentir ces Zmirot.
Alors vous m'avez dit justement que sur ces 20 Zmirot, il y en a quand même 6, je crois. Donc c'est pas rien qui parle de la nourriture. Alors, peut-être on va déjà les écouter, en écouter 2 Zmirot, et puis on va revenir sur ce sujet pour nous mettre en appétit. Donc 2 Zmirot très connus. La première, Ki Eshmera Shabbat, dont vous avez parlé, qui est interprétée ici dans la plus pure tradition andalouse par le grand Hassan Uriel Elbilia. Et la seconde, Tzur Michelo, qui est chantée sur un air très connu par Adolphe Attia, Albert Bouadana, Malkel Ben Amara Zichrono Levracha et Philippe Darmon. יש מראה שבת אין שמרני עוד הנה עול מעט בנו ובני יש מראה שבת
Ha
Tout d'abord, Kieshmera Shabbat, chanté par Uriel Elbilia, suivi immédiatement de Tzur Michello, donc notamment Adolf Attia, et donc nous avons entendu également Philippe Darmon. Quelques mots rapides sur ces deux semirot,
Jacques Arnold. Ce sont les semirot de Kieshmera Shabbat, Huyom Mechubad, Huyom Ta'anugim. C'est un jour qui est honorable, c'est un jour qui est plein de délices. Dans lequel c'est un jour où on a du pain, du bon vin, de la viande et des poissons. C'est le jour de joie dans lequel tu me réjouis. Voilà les termes dans lesquels s'exprime le poète dans cette Zmira, dans ce chant. Il y a aussi Tzur Michello que nous venons d'entendre, qui en général est le chant qui conclut le repas, ou qui conclut la série de toutes les Zmirot qui se trouvent juste avant le Birkat Hamazon. Et en effet, dans ce chant, sont repris finalement tous les éléments du Birkat Hamazon, c'est-à-dire des actions de grâce qui sont récitées à la fin du repas. Tout cela dans une ambiance chantée et enjouée et très dynamique. De nourriture et de provisions, il a rassasié nos personnes, son bienfait nous submerge, l'éternel est vérité. Donc il s'agit à la fois de célébrer et le Shabbat et le repas et finalement les actions de grâce qui vont suivre juste après et qui sont précédées de Shir HaMaalot, du psaume 126, qui est le psaume par lequel va se conclure le repas du vendredi soir, mais aussi du samedi matin, parce qu'il y a des semirot pour le samedi matin.
Eh bien, écoutons tout de suite ce psaume Shir HaMaalot par le Judaic Voice.
Yeah.
Shir HaMaalot, chanté ici par les Judaic Voice. Et vous nous avez dit, Jacques Arnold, donc c'est juste avant ce que vous appelez le Birkat Hamazon, précisons pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce terme, le Birkat Hamazon, c'est donc la bénédiction de la nourriture.
Oui, ce qui s'intitule les actions de grâce, le remerciement pour, en effet, la nourriture qui a été donnée, puisque le Créateur, Dieu, est là pour nous donner gratuitement, avec grâce et miséricorde et bienveillance, toute cette nourriture. C'est conforme au précepte qui est donné dans la Torah. C'est la seule bénédiction qui soit imposée par la Torah. « Be'achalta ve'savata ou ve'rachta et Hashem Elokecha » Tu mangeras, tu seras rassasié et tu rendras grâce au Seigneur, à Dieu.
Et de quand date cette coutume de chanter le Birkat Hamazon? Est-ce qu'on a une idée de la date où ça a été instauré dans la liturgie ou non?
Non, on ne peut pas dire que c'est de la liturgie. Parfois, certains chazanim, on va peut-être en découvrir quelques exemples, utilisent les termes du Birkat Hamazon qui sont très profonds pour en faire un véritable morceau de liturgie. Mais à la maison, on le chante sur un air entraînant, avec les enfants, dans les mouvements de jeunesse, dans les colonies de vacances. Mmh. C'est vraiment le moment où on partage à la fois le chant, à la fois la prière et le remerciement le plus élevé qui soit envers Dieu.
Eh bien, je vous propose justement d'écouter un de ces Birkat Hamazon plus cantorial, interprété par le Razan chantre Benjamin Muller, notamment l'extrait Harem, extrait du Birkat Hamazon.
Rahim no, Rahim no, Hashem Elokeinu, ani zeru elamecho, ani zeru elamecho, Yerushalayim irecho, ani zeru. David Meshich Lecho V'al HaBayis HaGudoyl V'yakudoyl Shenikro
Rachem, extrait donc du Birkat Hamazon, une très belle interprétation du Razan Benjamin Muller. Très beau chant.
Oui, en fait, c'est une mélodie qui était composée par Yossele Rosenblatt, le grand Razan du début du XXe siècle, ainsi que le Shir HaMaalot, d'ailleurs, était aussi une composition de Yossele Rosenblatt, interprétée par ce sympathique groupe de Judaic Voice que dirige Stéphane Pirnet. Et tout cela nous fait montrer cette dimension qui est liturgique, c'est vrai. C'était, là, on assistait à un concert qui a été donné à la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth dans les années 90, et Benjamin Muller l'avait très bien interprété.
Oui, tout à fait. Mmh. Alors, il y a un groupe dans le judaïsme dans lequel on chante particulièrement, ce sont les Hassidim. Chez les Hassidim, on chante tout le temps. Le chant est un moyen, la danse ou comme d'autres, d'accéder au divin. Et vous m'avez dit, lorsque nous avons préparé cette émission, que notamment lors du repas de Shabbat, non seulement on chante des smirot, mais également des tishnegunim. Qu'est-ce que signifie ce terme?
Et souvent, pour faire des chants sans parole, hein, il y a parfois de bons nigunim qui sont capables de réveiller l'attention, de donner une ambiance de chant. Et c'est ce qui se fait dans les tables chassidiques, les tiches, ce sont les tables qui sont, ça peut être celle du Shabbat, évidemment, mais ça peut être aussi des commémorations, des réunions chassidiques qui se font. Et là, on chante des nigunim.
Alors,
qui sont très entraînants.
Qu'un nigun est un air, en fait, sans parole en général, sur une onomatopée, yababam, ovaivoy, etc.
Voilà,
et c'est ce qu'on chante. Et effectivement, si vous allez sur YouTube ou ailleurs, on en voit beaucoup des vidéos comme ça. C'est tout à fait saisissant de voir tout le monde chanter ensemble.
C'est une ambiance très particulière.
Oui, tout à fait. Alors, on va écouter un de ces nigun, justement un nigun joyeux, un nigun saméar, comme on dit, chanté ici par les Lubavitch. C'est un bref extrait de ce nigun saméar. Un nigun saméar, nigun joyeux par les Lubavitch. Justement, à propos des Lubavitch, mais dans le judaïsme en général, Jacques Arnold, ne dit-on pas dans la tradition juive qu'une bonne nourriture comme une bonne musique pourrait hâter la venue du Messie ?
Alors là aussi, c'est une célébration qui à elle seule mérite qu'on s'y attarde. Il s'agit d'une chanson populaire en yiddish qui pose la question suivante. Lorsque le Messie viendra, comment ça va se passer? Il y aura bien un repas pour célébrer cet événement. Et qui assistera à ce repas? Eh bien, c'est le contenu de cette chanson qui sera interprétée ici par Meir Elfgott et Abraham Fried. Et nous entendrons peut-être juste après un nigoun aussi en yiddish. Et peut-être on l'évoquera juste après.
Donc nous entendrons ces deux extraits.
Vos vet zayn az Moshiach vet kumen, az Moshiach vet kumen, vel min machen asu den yu. Vos vel mir essen oiv der su den yu, dem shoy. Trinken auf dem Sudan, Lechaim, Lechaim, Ja,
Successivement, Vous wird sein, wenn Moschiach, chanté par les cantors Yitzhak Meir Elfgott et Avraham Fried, enchaîné avec la Seuda du Moschiach, dont parlait Lubavitch. Quelques mots sur ce que nous avons entendu, parce que je vous voyais danser en même temps, Jacques Arnold.
Là, on avait droit à un vrai nigoun qui se chante à table, avec un côté un peu nostalgique, un petit peu triste, c'est vrai. Mais en fait, il y a toute une philosophie qui se ressent derrière ce chant, qui était un disque des années 60, je me souviens. Il m'avait toujours très ému, ce texte. C'est en yiddish qui dit « Manger, de toute façon, l'on mange. Dormir, de toute façon, on dort. » C'est pas le problème. On ne doit pas s'en soucier. Mais ce qui compte, c'est comment étudier, comment prier, de quelle manière on va le faire. C'est là que notre véritable interrogation se porte. Et c'est de cette manière que c'est exprimé avec ce chant lancinant. Et je retrouve ici dans un bulletin que j'ai reçu récemment de Chaim Schneor Nissenbaum qui fait remarquer qu'il faut se souvenir que l'homme ne vit pas que de la matérialité nécessaire à soutenir sa vie. Son existence dépend aussi des éléments spirituels qui le nourrissent profondément. Je crois que la musique, c'est l'élément spirituel qui nous anime et qui nous sert finalement à surmonter cette préoccupation qu'est la nourriture.
Eh bien, écoutez, sur cette belle pensée, Jacques Arnold, il me reste à vous remercier car notre émission, chères auditrices, chers auditeurs, se termine maintenant. Elle sera suivie dans 4 semaines par un second volet qui sera dédié aux tables et aux musiques du Yiddishland. Ami Sepharad, ne vous inquiétez pas, le troisième volet de ce thème vous sera intégralement consacré. Si vous souhaitez donc réécouter cette émission, je vous rappelle qu'elle est disponible dès le lendemain de sa diffusion sur le site de l'Institut européen des musiques juives, www.cfmj.fr, ainsi que sur judaïkfm.com dans la rubrique podcast. Au micro, Hervé Rotten, Antoine à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïk FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mine.